On va s'arrêter aujourd'hui, bien sûr, sur l'histoire des Méraglim. Donc l'année dernière, on avait fait un cours dans lequel on avait expliqué que l'erreur des Méraglim n'était finalement pas si grave que ça. Il ne faut pas revenir dessus. On avait expliqué que ça avait démarré d'une bonne intention. Là, cette année, on va s'arrêter sur un détail de l'histoire des explorateurs. On va s'arrêter sur la personnalité de Yehoshua. Et le fait qu'il est un petit peu le chouchou de Moshe Rabbeinu. Donc ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? On voit dans la paracha, on nous dit que Akadosh Baruch Hu, enfin, Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, il lui dit, est-ce que je peux envoyer des explorateurs? C'est une demande qui vient du peuple, une demande qui émane du peuple, ils ont besoin d'envoyer des explorateurs en Eretz Israël pour savoir où ils vont.
On voit ça dans la paracha?
C'est un Rashi, il fait qu'on Rashi dit.
Ah.
D'accord?
On le voit pas.
Non, c'est pas, c'est pas écrit. Mais ce qu'il a dit, Shlach Lecha, Ledater.
On le voit pas qu'il demande.
Voilà. Donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, il y a une demande qui émane du peuple, ils veulent savoir où ils vont. Ce qui est louable en soi. C'est bien de vouloir prévoir où on va. Donc, Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui dit, Shlach Lecha. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu envoies, si tu veux pas, tu envoies pas. Comme on a expliqué l'année dernière, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a compris que dorénavant, il y avait une nouvelle phase dans Avodat Hashem, c'est que Kadosh Baruch Hu ne nous dit plus ce qu'on doit faire. C'est comme à un certain moment, le patron, il dit à l'employé, il dit, bon, maintenant, tu te débrouilles. C'est pas parce que l'autre veut faire une bêtise, parce qu'il dit maintenant je veux que tu voles de tes propres ailes.
Autonome.
D'accord? Shlach Lecha. Donc c'est la première opération qui est lancée exclusivement par Moshe. La première, il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant. Toujours c'était Dieu qui était derrière. La première opération, c'est l'opération des explorateurs. Moshe Rabbeinu va sélectionner.
Pour la première.
Moi, c'est toujours la première quand on est à 50. Donc Moshe Rabbeinu va sélectionner. Comme a dit Rashi, Kulam Anashim Rashi Bnei Yisrael Ema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qu'il a sélectionné, c'était des tzadikim. C'était des gens de choix. Dans chaque tribu, il a pris une personne de choix. Il a pris une personne, la meilleure personne possible pour envoyer en tant qu'explorateur. Donc, comme Rashi dit, c'était des kshérim, c'était des tzadikim, etc. Bon. Alors, on va lire maintenant le pasouk Tetzaïn. C'est en fait la page 369. C'est bon? Il nous dit le pasouk, il nous dit « Et les Shemot Ha'anashim, Asher Shalach Moshe, la Tourat Ha'aretz. » Voici les noms des gens que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre. Allez, messieurs, on y va. Chut, s'il vous plaît. Page 369. Donc « Et les Shemot Ha'anashim, Asher Shalach Moshe, la Tourat Ha'aretz. » Pasouk Tetzaïn. Voici les noms des gens que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre. Donc on a cité les noms. Pour chaque tribu, il y avait un nom. Reuven, Shamua, Ben Zakur, Shimon, Shavad, Mokhoré, et chacun, c'était tous des chefs. Et là, ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est Vaikra, Moshe, Léoshe, Abinoun, Yehoshua. Donc, après avoir sélectionné les 12 chefs qui allaient représenter le Ham Israël pour aller en Eretz Israël, on nous raconte que Moshe Rabbeinu a changé le nom de Hoshea, qui était donc son secrétaire principal, comme on aurait dit aujourd'hui, et il l'a appelé Yehoshua. Donc, qu'est-ce qui a changé entre Hoshea et Yehoshua? Il a rajouté un Yud. D'accord. On va lire le commentaire de Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Première ligne dans la colonne de droite, page 369. Vaikra Moshe le Hoshea. Rashi nous dit, Itpalel alav, il a prié, que Moshe Rabbeinu a prié pour Yehoshua. Ka, donc c'est le nom de Dieu, que Dieu, pourquoi il a rajouté le Yud? Parce qu'avec le Yud, ça forme le nom Yudke. Yudke, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a prié, il lui a dit Ka Yoshiacha Meatsat Miraglim, que c'est un jeu de mots. Donc Ka c'est Yudke, Yoshiacha, que Dieu te sauve, Meatsat Miraglim, du conseil des explorateurs. Alors quand on dit le conseil, la Rashi nous dit du conseil des explorateurs, c'est-à-dire qu'apparemment, Moshe Rabbeinu se doutait déjà qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. Sauf que le piège, c'est que les Bnei Israël ne sont pas encore partis en Eretz Israël. Les explorateurs ne sont pas encore partis en Eretz Israël. D'accord? Comment ils savent?
Allait mal tourner.
Et s'ils savaient que ça allait mal tourner, pourquoi les envoyer?
Voilà. Il a maintenu sa mission.
On a compris. Et plus que ça.
Et pourquoi il a été bénir que...
Exactement. Pourquoi il a béni que Yeshua?
Pourquoi il en a sauvé un?
Parce qu'apparemment, la bracha, elle a marché pour Yeshua. Pourquoi elle a pas prié pour tout le monde? Quoi? Non, Caleb, on dit qu'il avait un troutavod. Parce qu'il est parti sur les tombes de ses équipes.
Les 10, ouais,
c'est-à-dire qu'Alès, c'est un coup de chance, quoi. Il s'est dit, bon, je vais aller sur le tombe de Sadikim, ça l'a sauvé. Et partir à Hebron.
Déjà, ils étaient 10. Mignon.
D'accord. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour les autres?
S'ils savaient pas simplement qui.
Et en plus, s'ils sentaient déjà que ça sentait pas bon, toute cette histoire, pourquoi il les envoyait? Pourquoi il annule pas la mission? C'est le patron, non? Le patron, il sent que ça tombe pas bien. Il dit, bon, on arrête, on verra.
Changement de programme.
Oui, mais attends, parce que quand même, c'est légitime.
C'est une bonne question, évidemment.
Oui. Oui, d'accord, mais...
Non, mais pour ton bien, on sait qu'à la fin de cette histoire, pourquoi il a dit « Shlach Lecha » pour toi, pour ton bien? Parce que c'est par rapport à cette histoire que Moshe Rabbeinu a eu 40 ans de plus.
Oui, d'accord, mais
sinon,
quand même.
Il ne pas eu, puisqu'il savait qu'il ne devait pas rentrer dans
la tête d'Israël. Quand même, Moshe Rabbeinu, ça...
Il savait qu'il ne rentrerait pas,
même si
il
avait
Torah. Il a fait comprendre, ouais. Oui, la semaine dernière, dans la paracha semaine dernière. Il y a eu Eldad et Medad,
qui ont prophétisé
dans le camp, qui ont dit « Moshe Rabbeinu va mourir, et c'est Yoshua qui va le remplacer ». D'ailleurs, Yoshua était... Bon, t'es bouleversé, Loussa. Il a dit, tu imagines ce qu'il dit, etc. Bon, donc je reviens à mes questions. Moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Moshe Rabbeinu. Quelles informations il avait, quelles informations il n'avait pas. Pourquoi il a prié que pour Yoshua, il n'a pas prié pour les autres. S'il pensait que ça tournait pas rond, Rachid l'a dit. Il lui a dit que Dieu te sauve du conseil des explorateurs. Donc si il se doute que ça va mal tourner, dans ce cas-là, il faut arrêter la mission.
Oui, mais peut-être qu'au niveau politique, il était obligé d'y aller, puisque Yétro, il avait refusé.
Attendez, c'est qui le patron?
Mais il avait peut-être des comptes à rendre dans toute la communauté.
Quel compte à rendre? C'est qui le patron? Mais il sent que ça sent pas bon.
Oui, mais attends, dans la paracha juste d'avant, à la fin, il demande à l'autre, soit notre guide, et l'autre il dit non, je veux pas.
Ouais. J'ai lu un commentaire.
Alors pourquoi il prie? Attends, on va développer.
Pourquoi
il priait que pour Yeshua?
Parce qu'il pensait à ce moment-là, je me comprends qu'il pensait que c'était Yeshua simplement. Il y avait une raison de voter, justement pour lui permettre à lui d'avoir 40 ans de plus. Il pensait que Yoshua seul était en mesure de
voter.
Non, bon, d'accord, on va voir les différents méthodes. Donc on a eu un premier pirouche et le pirouche de Rachid.
Voilà,
on va développer.
Une réponse.
Deux secondes.
Bon, voilà,
Laissez-moi développer après. Donc la première réponse qu'on a, c'est la réponse de Rachid. Mais Rachid n'a pas répondu. Il a dit simplement, il lui a rajouté la lettre Yud pour lui dire que Dieu te sauve du conseil des explorateurs. Bon, moi en tout cas, ça ne me suffit pas. Pourquoi il a pris que pour lui, je sais pas.
On a la réponse
du Targum Yonatan. D'accord, bien sûr. Alors Rachid explique les faits. Il dit, nous on sait que Moshe a prié pour Yoshua. Moi je veux comprendre pourquoi il a prié que pour Yoshua. Ça Rachid ne dit pas. Bon, il dit pas. Il y a une réponse du Targum Yonatan. Le Targum Yonatan, c'est la traduction de Yonatan Manouziel, c'est une traduction, mais avec des petits mots par-ci par-là qui changent tout. D'accord. Dans le Targum Yonatan, qu'est-ce qu'il explique là-bas? Il dit que Moshe Rabbeinu savait que Yoshua était très anav, très humble. Or, par définition, les gens qui sont humbles, ils sont très influençables. Donc, il s'est dit, puisque Yoshua, je le connais, il est très influençable, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Bon, je sais pas ce qui se passera, il se passera ce qui se passera. Mais lui, Yoshua, il est très influençable. Donc, puisqu'il est très influençable, je prie pour lui, pour qu'il ne soit pas influencé. Ça répond pas à notre question encore.
On a déjà
un nouvel élément. Que Moshe Rabbeinu avait peur pour Yoshua, parce qu'il savait qu'il était influençable, parce qu'il était humble. Quelqu'un de humble, c'est pas quelqu'un qui a du caractère. Donc, puisqu'il est humble, donc il sait que c'est quelqu'un qui va être influençable. Donc ça nous explique pourquoi Moshe Rabbeinu voulait prier peut-être plus pour Yoshua, mais ça n'explique pas pourquoi il n'a pas prié pour les autres. Donc ça répond pas entièrement à la question. On a un autre commentaire, qui est le commentaire du B.R. Bassadé. D'accord, qui va rejoindre un petit peu, écoutez bien. Un joli commentaire, qui dit la chose suivante. Dit que lorsqu'on a vu la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, que Eldad et Medad ont prophétisé dans le camp. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, comme Rachid explique là-bas, Moshe Rabbeinu va mourir, et c'est Yoshua qui va nous amener en Eretz Israël, à la terre, comme il disait là-bas. Alors, là-bas, on raconte que Yoshua était horrifié de ce qu'il avait. Il a dit, c'est pas possible, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, empêche-les, Adoni Moshe Kelaem, mets les en prison! Arrête, stop les, t'as vu les bêtises qu'il raconte? Il a très très mal supporté Kelaem. Non, ça veut dire mets-le en prison.
Ouais.
Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a répondu? Moshe Rabbeinu a dit, mais laisse-le parler, et que Dieu fasse que tout le peuple d'Israël soit tous des prophètes. Donc il a fait comprendre qu'il ne dise pas des bêtises. C'est ce qu'il lui a fait comprendre. D'accord? Bon. Alors, du coup, explique le B.R. Bassadé, un commentaire intéressant. Il dit que du coup, Yoshua, dès qu'on lui parlait de la terre d'Eretz Israël, ça lui faisait une angoisse. Une angoisse terrible. Parce qu'il s'est dit « Eretz Israël », ça veut dire que c'est moi qui vais le faire à la place de mon maître. Je suis pas prêt. Donc dès qu'il entendait le mot « Eretz Israël », ça lui faisait une angoisse terrible. Puisque ça lui faisait une angoisse terrible, donc Moshe Rabbeinu, il s'est dit « Les autres !» Il n'y a pas de raison, ils n'ont pas de raison de craquer là-bas. D'accord? C'est pas que c'est un autre, toi tu as dit pour les 40 ans. Pas pour les 40 ans. C'est que Moshe Rabbeinu, dès qu'il entendait le mot « Eretz Israël », il avait une phobie d'Eretz Israël. Parce qu'il dit « Attends, Eretz Israël, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir le faire. » J'imagine.
Ça veut dire que mon maître,
va mourir. D'accord? Ça veut dire que, ça y est, je dois être le patron. D'accord?
Si mon maître va mourir,
je suis pas prêt. Donc, je suis pas prêt.
Donc, je veux pas voir ça.
Et donc, je veux voir que le mal. Vous savez, quand on veut pas aller quelque part, on va trouver tous les défauts qu'il faut pour ne pas y aller.
Sauf que Moshe aurait pu choisir quelqu'un d'autre pour son chevet.
Tu as raison. Bonne question. En plus, ça ne répond toujours pas à notre question du départ. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour les autres?
Oui,
peut-être que ça veut dire les mêmes parchemins que je suis en train d'expliquer. Ça explique simplement pourquoi Moshe Rabbeinu devait prier plus pour Yoshua. Voilà. Parce que par exemple, on a dit Yoshua était quelqu'un qui était humble, Yoshua était quelqu'un qui avait apparemment une certaine phobie par rapport à Israël. Peut-être, il n'y a pas de problème. Mais il faut prier pour les autres aussi. Surtout que les tuilettes marchent. Les tuilettes de Moshe ont toujours marché. Hein, il n'y a pas longtemps, c'était là. Enfin, il n'y a pas longtemps historiquement. Dans la paracha, ça fait longtemps, mais il n'y a pas longtemps historiquement, c'était l'histoire du Vaudor. Dieu voulait nous détruire, Moshe Rabbeinu a prié, c'est arrêté.
Et pour Myriam aussi.
Pour Myriam aussi, dans la paracha de Donc les tuilettes de Moshe marchent. Ça marche.
Ouais.
D'accord.
Ou mieux.
Ça fonctionne.
Au moins les tiennes, ouais.
Alors pourquoi il ne prie pas pour les autres? Alors on a une autre réponse encore du Kli Yakar. Alors, je vous fais encore peut-être 2-3 pirouchim, après on va développer. On a une réponse du Kli Yakar. Il y a toujours, le Kli Yakar a toujours des réponses très originales. Il dit, c'est très simple. Il dit, Yeshua Binoun descend de qui? Il descend de Ephraïm. Ephraïm descend de qui? Il descend de Yosef. Il dit, on sait que Yosef, il a parlé mal sur ses frères. Donc c'est quelqu'un qui a la langue
pendue.
Qui, enfin,
propension à faire
original. Ouais.
Donc, dit le Kli Yakar, il s'est dit, peut-être que dans les gènes, peut-être que lui, il va aller en Eretz Israël et il va mal parler. Rachid ne dit rien,
Rachid dit que c'est pour le protéger des autres.
Oui, mais Rachid ne dit pas pourquoi. Rachid dit simplement les faits. Rachid dit simplement les faits. Maintenant, c'est à nous. Avant, bien avant.
Bien avant.
C'est que c'est bien avant qu'il ait enterré. Mais ça ne change pas que...
Ils l'ont pas enterré encore là.
Ils l'ont déjà enterré, ça y est. Ça y est, ils l'ont déjà enterré. Ils l'ont enterré, c'est de l'histoire du Pessar Chénis. Les gens qui avaient accompagné, ils l'ont déjà accompagné.
Donc ils n'ont pas mis longtemps, 40 jours après.
Ah, ils n'ont pas tourné avec un mort pendant 40 ans.
Je sais pas.
Ah oui, non, ils l'ont fait.
Je pensais qu'il l'avait enterré quand ils étaient rentrés.
Non, c'est pour ça qu'il l'a enterré.
Là où il est,
c'est Ashrem.
Mais Ashrem, c'est en Israël.
Oui,
oui, ils sont rentrés en Israël. Ils
sont rentrés rien pour l'enterrer, ils sont sortis.
Ils ont envoyé une équipe, quand même, bien sûr.
Comment c'est ça, d'où on sait d'où on
voit ça? C'est l'histoire, enfin, je ne fais pas la référence exacte.
Moi aussi.
C'est quoi, il l'a enterré?
On est 40 ans
en aide. Évidemment.
Bah oui, 40 ans
avec.
Pourquoi pas? Il a mis dans une mallette pendant. Non, c'est pas un problème.
Mais on ne pouvait pas, normalement, je pourrais essayer
L'histoire du Pessar Chéni, c'est que c'est les gens qui étaient préoccupés par ça. Les gens qui étaient. L'histoire du Pessar Chéni, c'est qu'il y avait des gens qui étaient préoccupés par ça, etc. Donc ils étaient impurs à cause de ça. Ils étaient occupés avec ça. Bon, quoi qu'il en soit. Alors, moi je reviens à notre sujet. Pourquoi Moshe Rabbeinu a prié uniquement pour Yoshua? Pourquoi il n'a pas prié pour les autres? Donc on a donné une première réponse, on a dit. Enfin, c'est pas une réponse, on a dit parce que Yoshua était humble, donc il fallait prier particulièrement pour lui. On a donné une deuxième réponse, on a dit parce que Yoshua avait une phobie par rapport à Eretz Israël, parce qu'il savait que Eretz Israël, ça veut dire c'est moi qui vais devoir remplacer mon maître. Donc il fallait prier particulièrement pour lui. On a donné une troisième réponse, qui a dit que Yoshua a descendu Yosef, et les gens de la tribu de Yosef, dans les gènes, ils parlent facilement. D'accord? Donc il faut lui donner une protection particulière. Mais moi, ça ne change pas que toutes ces réponses ne me suffisent pas.
Je parle juste une question.
Deux secondes, s'il vous plaît. Toutes ces réponses ne me suffisent pas. Pourquoi? Parce que je ne comprends toujours pas comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour
les autres.
Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche? C'est des mots. Qu'est-ce qui te coûte? Tu prends 10 minutes, tu pries pour les autres. Qu'est-ce qui coûte à Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas prié pour les autres? D'accord? Pas normal, il y a un problème. Bon. Alors, il y a un principe de base, ça je pense c'est un principe très important qui explique le Rabbi. Le Rabbi il nous dit que la Torah ne nous raconte pas toute la vie de Moshe Rabbeinu. Écoutez bien ce que je veux dire. Par exemple, où c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu a étudié la Torah? Nulle part.
Non, il y a plein de choses.
D'accord. Où c'est écrit que Moshe Rabbeinu a accompli les mitzvot? On a vu. Voilà. Donnez-moi une mitzvah que Moshe Rabbeinu a accomplie. Nulle part. C'est évident qu'il les a fait. C'est sûr.
Allumer une télé.
Ni lui ni personne.
D'accord. Non, on raconte certaines choses. Il y a des choses qu'on raconte. On raconte par exemple que. On raconte pas. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on raconte pas parce que c'est des choses qui sont soit évidentes, soit c'est des choses qui ne concernent pas le lecteur. C'est des choses qui sont évidentes. Là, pour nous, c'est évident que la Torah n'a même pas besoin de nous dire que Moshe Rabbeinu a prié pour les autres. C'est bien ce que j'ai expliqué. C'est sûr que Moshe Rabbeinu a prié pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans l'histoire, un peu plus tôt, que lorsque Yaakov a envoyé ses enfants pour aller chercher à manger en Égypte, il a prié pour eux. Donc c'est quelque chose de normal de prier quand on envoie quelqu'un. Ça c'est clair que Moshe Rabbeinu a prié pour tout le monde. Il n'a pas fait une fila particulière.
Mais ça, il n'a pas fait pour chacun.
Il a fait une fila, il a prié, que Dieu vous aide, que Dieu soit avec vous. C'est du standard.
Ça veut dire quoi, Al-Pi Hachem?
Une seconde. Al-Pi Hachem, ça veut dire que Dieu lui a dit, comment on explique Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, si tu veux, tu envoies. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a pris les décisions.
C'est curieux.
Alors attendez, deux secondes. C'est évident que Moshe Rabbeinu a prié pour tout le monde. C'est sûr qu'il a prié pour tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas prié pour tout le monde. Ne serait-ce que même un parent qui raccompagne son fils, il lui dit que Dieu soit avec toi. C'est compliqué de le dire. On est avare en mots. C'est sûr, c'est pchat. On n'a même pas besoin de le dire parce que c'est évident que Moïse est revenu. Il envoie des gens, c'est les hommes de Moïse. C'est sûr qu'il leur a donné, c'est sûr qu'il les a bénis avant de partir. Sauf que. Là, on a une réponse du gourou Ariel. Qui dit comme ça, qui dit la chose suivante. Il dit que Moïse Rabbeinu a senti un besoin particulier de prier pour Yehoshua plus que pour les autres. Pourquoi? Parce que Yehoshua est le disciple de Moïse Rabbeinu. Et par définition, tout ce que Yehoshua fera, on l'attribuera à qui? À Moïse Rabbeinu. Donc c'est pas comme les autres.
C'est ça que je voulais dire.
C'est pas comme les autres. Ça, c'est la réponse du Maharal de Prague, gourou Ariel.
Prolongement.
Et oui. Donc, avec ça, on a une réponse très simple. Qu'en vérité, Moïse Rabbeinu a prié pour tout le monde. Mais il a eu un besoin de prier un peu plus pour Yehoshua, parce qu'il dit, Yehoshua, ce qu'il fera va représenter ce que moi je fais. Et donc c'est très grave, c'est un Chilul Hashem pour tout le Ham Israël. Bon, et j'ai toujours pas répondu à ma question. Si Moïse Rabbeinu sentait que ça tournait pas rond, pourquoi il n'a pas annulé la mission? D'accord? Pourquoi il n'a pas annulé la mission? Alors moi, je vais vous rajouter un détail très important. Regardez. Dans le Passouk, c'est quel Passouk? C'était pour Yehoshua. Alors, le maté, voilà, Hoshéa bin Noun. Regardez, prenez pas sous crête, page 368. Quand on donne la liste des noms des gens que Moïse Rabbeinu a sélectionnés, qu'est-ce qu'on dit? On dit les matés Ephraïm, Hoshéa bin Noun. Pour la tribu d'Ephraïm, qui on a choisi?
Hoshéa.
Hoshéa, c'est Yehoshua. Mais on l'appelle Hoshéa encore. Donc d'abord, on a sélectionné, on les a tous sélectionnés, et apparemment, quand on les a sélectionnés, on l'a pas encore nommé Yehoshua. Et c'est seulement une fois qu'ils ont été sélectionnés, juste avant de partir, que là, Moïse Rabbeinu a rajouté le nom à Yehoshua, il l'a appelé Yehoshua. Moi, je vous pose une question très simple. Pourquoi Moïse Rabbeinu n'a pas rajouté le nom à Yehoshua avant de le nommer? Pourquoi il l'a nommé et après il lui a rajouté le nom? Comment ça se fait?
C'est pas lui qui l'a nommé.
Mais sur celui, c'est qui alors?
Ah, tu parles le désigné.
Vaishlach Otam Moshe.
D'accord.
Il l'a désigné après.
Il les a désignés. Vaishlach, le verset dit clairement. Il dit Vaishlach Otam Moshe, il les a désignés. Un tel. Apparemment, il les a désignés. Et après les avoir désignés, juste avant de partir, il a rajouté le Yud à Yehoshua.
Bon, visiblement, il y a un message dans ce Yud, ce sont des corps.
Donc, il y a quelque chose. Donc, explique le rabbi, c'est évident qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le moment où il les a nommés, il les a sélectionnés, et le moment où il les a envoyés. Est-ce que vous me suivez? C'est évident qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Alors, regardez la réponse, c'est très simple. C'est que quand Moïse Rabbeinu les a sélectionnés, au moment où il les a sélectionnés, les gens ne se connaissaient pas les uns les autres. Écoutez bien, c'était ce nouvel élément. Ils ne se connaissaient pas les uns les autres. Donc ils ne se connaissaient pas, donc on les a jamais vus ces 12 ensemble. Donc jusqu'ici, Moïse Rabbeinu ne sent pas un besoin particulier de prier pour Hoshéa. Il dit, Hoshéa, j'ai choisi le top. J'ai pris les personnes au top de chaque tribu. Donc il n'y a pas de problème. Il les sélectionne. Ils vont se regrouper. Pourquoi ils vont se regrouper? Pour préparer leur mission. Et là, il sent qu'il y a quelque chose qui tombe par rond. Mais comment explique le Maharal de Prague? Il dit que c'était seulement dans la marchava de Moïse Rabbeinu. Ça veut dire qu'il a senti qu'ils étaient un peu trop ensemble. Il dit, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? C'est bizarre, qu'est-ce qu'il prépare? Mais c'était dans la marchava. C'est-à-dire quoi dans la marchava? Ça veut dire que Moïse Rabbeinu a eu un soupçon. Mais ce soupçon ne pouvait pas justifier d'annuler la mission. Pourquoi? Parce que c'était une intuition qu'il avait, mais qu'il ne pouvait pas justifier avec des faits. Donc il ne pouvait pas annuler la mission. Plus que ça. Continue le commentaire, il dit la chose suivante. Il dit que, pourquoi Moïse Rabbeinu s'est douté? Moïse Rabbeinu, il s'est douté qu'on sait très bien que la raison pour laquelle les Bnei Israël, les explorateurs, à la base, ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, c'est parce que pour eux, c'était le kiff dans le désert.
Et ils perdaient leur autorité quelque part.
C'est pas que le kiff, c'est le kiff pour en Eretz Israël.
Parce que ce sont que les espions,
mais
c'est pas les chefs de tribu.
C'était un kiff pour eux en Eretz Israël, dans le désert. Dans le désert.
On a la semaine d'avant, on les a les chefs de tribu. C'est pas les chefs.
C'était des chefs, pas les chefs. Bon, alors attendez, écoutez, je vais expliquer. Les explorateurs, et de manière générale, c'était un sentiment qui était partagé par tous les pays d'Israël, on ne voulait pas rentrer en Eretz Israël. On était tranquille dans le désert. On n'avait pas de problème de Parnassa. D'accord? On étudiait la Torah toute la journée, avec le meilleur des maîtres possible. Moïse Rabbeinu. D'accord? Pas de problème de vêtements. Aucun problème. D'accord? Pas de problème de il fait trop chaud, il fait trop froid. Il y a la clim.
Ce désert, c'était d'accord? Le désert de Paran, il y avait des serpents comme ça.
Oui, mais on était protégés. On était protégés. D'accord? La clim, il y avait. Il faisait toujours bon.
Et comment on avait les vêtements?
Comment on avait les vêtements? Les vêtements, ils étaient agrandissés automatiquement.
On avait des miels.
Tout était automatique. Les Bnei Israël, on dit, pourquoi tu veux qu'on rentre en Eretz Israël? Pour travailler, pour labourer, etc. D'accord? Moïse Rabbeinu, écoutez bien la réponse, Moïse Rabbeinu sentait, à ce moment-là, il sentait que il y avait une partie du Israël qui ne voulait pas spécialement aller en Eretz Israël. Mais il n'avait pas assez d'éléments pour arrêter la mission. Et là, on apprend un message très important pour un patron. Que c'est pas parce que j'ai une intuition qu'il y a quelque chose qui tombe par an que je dois arrêter la mission, je dois casser quelqu'un d'autre. Parce que les casser, ça veut dire arrêter la mission, ça veut dire qu'on va leur faire honte, on va être après, etc. Moshe Rabbeinu, comme il n'avait pas assez d'éléments pour casser les autres, pour les arrêter, ça veut dire comme ça, je reprends. Lorsque Moshe Rabbeinu, on reprend la chronologie, Moshe Rabbeinu les sélectionne. Au moment où il les sélectionne, ils sont tous top de chez top. C'est les meilleures personnes possibles qu'on a sélectionnées pour envoyer une race d'Israël. Les quelques jours qu'ils se préparent pour aller à leur mission, Moshe Rabbeinu se rend compte que les 12 se rencontrent un petit peu trop. Ils sont un petit peu trop ensemble. Donc il dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Mais il n'a pas d'éléments. Il n'a rien. Apparemment, jusqu'ici, tout est caché. Comme on dit Rashi. Anashim ksherim ayu, c'était caché. Mais il sent qu'il y a un atzat. Comme Rashi dit, atzat meraglim.
Malgré la présence de Yoshua parmi
Attendez, lui. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est atzat. C'est
oui,
quoi
son élève, il peut Attendez. Lui dire.
Rashi n'a jamais dit qu'il y a un mauvais conseil. Il n'y a pas de mauvais conseil pour l'instant. Rashi n'a pas dit.
D'accord, mais le sentiment que Moshe a, il a son élève parmi eux, donc son élève lui aurait.
Pour l'instant, il n'y a rien.
Il aurait balancé. Enfin,
pour l'instant, il n'y a rien. Même Yoshua n'a rien senti. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais Moshe Rabbeinu sent qu'il se regroupe un petit peu trop, il sent quelque chose. C'est une atzat meraglim. Il sent qu'il y a un conseil qui est en train de se préparer, mais il n'y a pas de fait. Il ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il n'y a rien pour l'instant. Il se dit, mais attends, j'ai sélectionné le top. J'ai pris le top du top. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu prends des gens, des fois des gens, chacun séparément, il est au top. Mais quand tu les prends, tu les mets ensemble, et ben, ça fait des fois des choses que jamais on ne saura pas. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas annuler la mission. Il n'avait pas assez d'éléments pour annuler la mission. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est qu'il s'est dit, puisque j'ai un élève qui s'appelle Yoshua, d'accord, et que Yoshua, je sais comme on l'a dit, qu'il est humble, je sais qu'il me représente, alors... Puisqu'il me représente et que moi j'ai un souci, donc j'ai un soupçon, j'ai le droit moi de demander à Kadosh Baruch Hu que je ne veux pas que mon nom soit taché. Mais il n'avait pas le droit de prier pour les autres, parce que prier pour les autres, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire les accuser. D'accord. De quel droit tu les accuses? T'as prié pour nous déjà. T'as prié pour nous déjà que tout aille bien. La seule raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, c'est le Maharal de Prague qui dit, pour laquelle Moshe Rabbeinu l'a fait pour Yoshua, c'est parce que Moshe Rabbeinu s'est dit, Yoshua, c'est la prolongation de moi. Et moi, je sens mal, donc pour moi, je dois prier. Les autres, je peux pas prier, parce qu'il y a pas, j'ai pas de preuve, j'ai rien. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a prié pour Yoshua. Mais en vérité, c'est évident que Moshe Rabbeinu a prié aussi pour tout le monde. D'accord? Et de là, on apprend quelque chose de très fort. On apprend que pour la première fois, on a une tefila de Moshe Rabbeinu qui n'a pas marché. On en a eu après. Après, on sait par exemple après que Moshe Rabbeinu va prier pour rentrer en Eretz Israël. Il va faire, va être Hanan, combien c'est la valeur numérique de 556. Il est chaud.
Non, 556.
Savkouf Nunvav. La Gimetret va être Hanan. Donc après, on a eu d'autres filles de Moshe Rabbeinu qui n'ont pas été acceptées. Ou bien quand par exemple Moshe Rabbeinu était devant le rocher. Moshe Rabbeinu était devant le rocher. Il a. D'accord. Au début, il a frappé le rocher. C'est une fila quelque part. Et ça n'a pas marché.
Non, c'est ça.
Ça n'a pas marché.
Ça va être Hanan. Non, c'est pas ainsi.
Comptez, va être un âme de la communauté. Savkouf Nunvav.
Les unités, va être, vav, alef.
Il y a un livre qui s'appelle Va être un âme, qui a été composé par un rabe, ça fait quelques siècles, dans lequel il cite les 558 pilotes que Moshe Rabbeinu a fait. Enfin, il faut voir Hakodesh pour le trouver, je sais pas comment il a fait. En tout cas, il dit, et tous les arguments que Moshe Rabbeinu a employés, parce qu'il faut les trouver, 550 arguments. Il y a un livre qui s'appelle Va être un âme. Enfin, c'est un livre qui est plus imprimé aujourd'hui, mais sur Internet, on peut le trouver. En scan. Alors, donc j'étais en train de dire, ça c'est la réponse. Donc je reprends la question. Pourquoi Moshe Rabbeinu a prié que pour Yoshua? En vérité, Moshe Rabbeinu a prié pour tout le monde. Mais... il a eu une tefila particulière pour Yoshua. Pourquoi particulière pour Yoshua? On a expliqué pourquoi. Parce que Yoshua était humble. Parce que Yoshua est la prolongation de Moshe Rabbeinu. Parce qu'on a expliqué, parce que Yoshua avait une certaine phobie par rapport à Israël. Parce que Yoshua descend de Yosef. Et donc Yosef, ils ont les gens qui ont la langue facile. Mais il a prié pour tout le monde. Jamais on a dit qu'il n'a pas prié pour tout le monde, Moshe Rabbeinu. Il a prié pour tout le monde. Mais il a prié particulièrement pour Yoshua. Pourquoi cette fila particulière, il n'a pas pu la faire pour les autres? Parce que pour l'instant, c'était même pas un soupçon de la part de Moshe Rabbeinu. C'était une intuition qu'il avait. Et pour une intuition, il ne pouvait pas se permettre de salir les autres. Yoshua, il n'a même pas sali. Il a dit, écoute, tu es ma prolongation, que Dieu soit avec toi.
Je suis d'accord avec vous, déjà que sa prière n'a pas été acceptée. Au contraire, parce que Yoshua n'a pas été dans la Hatatam Ragelim. Donc la prière, telle que Rachid a décrit, la prière, c'est de ne pas être influencé.
La prière particulière.
A été acceptée.
La prière particulière, mais la prière qu'il a fait pour les autres.
D'accord, pardon. La prière de Yoshua.
Parce que la prière d'un tzaddik,
elle a été acceptée.
Mais la prière d'un tzaddik, c'est bien beau. Mais quand une personne, dès le départ, il va avec dans la tête, je veux pas aller en Eretz Israël. Pour une raison positive,
oui,
peut-être.
Non, je pensais à la prière de Yoshua. C'est pour ça que je réagis.
Pour une raison qu'il pense être positive. Il dit, je veux pas aller en Eretz Israël, je préfère rester dans le désert. Si une personne est comme ça, Moshe Rabbeinu, il peut prier pour lui toute la journée, on ne peut rien faire. C'est ce qui s'est passé. Donc Moshe Rabbeinu a prié pour eux. Ça, c'est la réponse.
Et c'est cette prière-là qui n'a pas été acceptée.
C'est cette prière qui n'a pas... C'est pas qu'elle n'a pas été acceptée, c'est que Moshe Rabbeinu, il peut prier pour qu'il y ait un srout. Maintenant, on t'envoie le srout, on t'envoie des appels de phare, on t'aide, etc. Mais l'autre, il ne veut pas comprendre. On ne peut rien faire. On va pas refaire le monde. D'accord ? C'est à eux de décider. Donc avec ça, on comprend qu'en vérité, Moshe Rabbeinu a prié pour tout le monde. Et donc on comprend tout ce qui s'est passé, que Moshe Rabbeinu, on a un message très très fort, surtout suite à l'histoire de la Shanara de la semaine dernière. Dans la parasha de la semaine dernière, du la Shanara. D'accord ? Donc c'est pas vraiment du la Shanara en vérité, quand on réfléchit, dans la parasha de la semaine dernière. Enfin bon, c'est une parenthèse. Parce que Myriam a parlé à Aaron, et écoute, notre belle-sœur a raconté que ça fait déjà des mois qu'ils n'ont pas eu de relation, c'est pas normal. Donc c'est pas vraiment du la Shanara, c'était pour... Elle parlait à son frère pour arranger la chose. Bon, c'est pas vraiment du Lashon Hara, mais à son niveau, on va dire que c'est du Lashon Hara. Là, on voit que Moshe Rabbeinu, tellement il voulait éviter le Lashon Hara, que même quand il avait une intuition, il a dit, écoute, j'ai pris des gens cachers, j'ai pris des gens au top, c'est vrai que là maintenant je les vois un peu trop ensemble, mais pour l'instant il n'y a rien. S'il y avait une information, elle serait revenue. Donc moi, pour moi, ils y vont. D'accord ?
Ensemble se ressemble.
C'est très fort, c'est très fort. Comment Moshe Rabbeinu, tant qu'il n'a pas d'éléments, il dit rien. Même prier à Kadosh Baruch contre eux, il ne prie pas. Rien. Il a prié normalement pour eux. Et même s'il l'avait pour Yeshua, on a expliqué c'est parce que Yeshua est la prolongation de Moshe Rabbeinu, c'est tout. Il dit pour moi je prie, pas pour eux.
Mais parce il ne doutait pas malgré tout, parce que tu sais comme Dieu lui dit, je la referai, on voit pour toi. C'est-à-dire qu'il savait dès le départ, Dieu n'était pas tout à fait d'accord.
Non, on a expliqué ça l'année dernière. On a expliqué dans le cours qu'on a fait sur Shlach que, au contraire, quand Moshe Rabbeinu... Au contraire, quand Moshe Rabbeinu, je l'ai rappelé au début du cours, quand Moshe Rabbeinu entend d'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, décide si tu vas envoyer ou pas. Moshe Rabbeinu, c'est vrai, normalement, t'as un enfant qui demande à son père, il dit, papa, est-ce que je peux aller là-bas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Normalement, il doit comprendre, ça veut dire oui. Bon, ça veut dire, fais ce que tu veux, c'est-à-dire, je veux pas. D'accord? Non. On a expliqué l'année dernière qu'au contraire. Au contraire, Moshe Rabbeinu a compris que lorsque le père, il lui dit, fais ce que tu veux. Il lui dit, l'Eda Atecha, comme Rachid dit. L'Eda Atecha, ça veut dire, je veux que c'est une décision que c'est toi qui prennes. Je veux avoir une certaine autonomie.
C'est toi qui décides.
D'accord? C'est jusqu'à maintenant, dans le désert, tout est pris en charge. Maintenant, on se prépare à aller en Eretz Israël.
Pourquoi Alpi alors ?
En Eretz Israël,
c'est toi qui as décidé. Pourquoi Alpi Hachem ?
Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre à Moshe de décider.
Je sais pas, ça me...
Rachid, c'est Rachid, elle est...
Oui, mais ça me suffit pas, j'ai ça encore.
Ah, oui, c'est vrai que...
Ben oui.
Ou comme il y a écrit Shelach.
Voilà. Après Shelach Lecha, c'est marqué. Vaï Shelach Otam Moshe.
Alpi Hachem.
Hachem a dit Shelach.
Oui.
Oui, d'accord, mais ça y est.
Rachid répond. Rachid dit, c'est quoi Alpi Hachem? Rachid dit, ça veut dire avec la permission de Dieu, que Dieu ne l'a pas empêché.
Oui, d'habitude, on ne dit pas Alpi Hachem par la permission. Alpi, ça veut dire mamache, à la limite, il y a un ordre.
Rachid explique là.
Oui, je sais, mais je dis encore faim.
Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on a compris. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a compris, c'est que Moshe Rabbeinu a prié pour tout le monde. Il a prié particulièrement pour Yeshua, pour les raisons qu'on a citées, parce qu'il se doutait, mais voilà. L'enseignement qu'on a tiré, je vais juste finir avec cet enseignement, on s'arrête là. L'enseignement qu'on a tiré est très simple. C'est qu'on a vu ici qu'on a eu des gens cachers, qui étaient au top. Et que Moshe Rabbeinu, ils pouvaient même pas stopper leur mission, ce qu'on vient d'expliquer. Tellement ils étaient au top que Moshe Rabbeinu, il avait rien pour arrêter leur mission. C'était des gens cachers à 100%. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens qui voulaient pas rentrer en Eretz Israël, parce qu'eux, on a dit, ils voulaient pas toucher au monde matériel, ils préféraient rester en spirituel. Et que, comme, ils avaient à la base une mauvaise intention, pourtant, pour eux, ils pensaient que c'était une pensée cachère. Mais comme ils voulaient aller à l'encontre de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fini par faire une vraie avéra, par carrément à dire, à la fin, ils ont fini par dire, la terre d'Eretz Israël, les gens qui habitent là-bas sont plus forts que Dieu. De là, on a un enseignement, que des fois, on a une bonne intention. Vous savez, des gens qui ont une bonne intention, mais qui ne veulent pas faire une mitzvah. Ils ne veulent pas faire un hydro. Ils disent, non, moi, je ne fais pas cette mitzvah parce que je pense que ce n'est pas pour moi. Et là, on voit que quand Akadosh Baruch Hu nous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Même si on pense, même si au moment où on refuse la mission, on pense que c'est pour notre bien, on a vu ce qui s'est passé ici. Ils ont refusé la mission, ils pensaient que c'était pour leur bien, ils ont fini par parler carrément contre Akadosh Baruch Hu. Donc, il ne faut jamais refuser une mission d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné une mission dans le monde matériel, ça veut dire qu'on doit rester dans le monde matériel, on doit travailler dans ce monde matériel avec des mitzvot matérielles. Même si quand on refuse cette mission, on pense que c'est pour la bonne cause, on a vu ce qui s'est passé ici, que...
Moi, une question.
Oui.
Hachem, il avait bien vu, quand il avait sorti d'Israël, il avait dit de peur qu'il voit la guerre et machin. Il voit le futur. Donc il les a emmenés ailleurs. Là, Hachem, il a bien vu qu'ils allaient, cette vie explorateur, ils allaient... Pourquoi il avait... Alpi a marqué. Pourquoi il avait dit non, écoute, c'est pas une bonne idée, non, laisse tomber.
C'est ce que je vais vous expliquer. C'est comme le parent qui dit à son fils, écoute mon fils, lance-toi. Il va se lancer. La première fois, il va se casser la figure.
Ah oui, mais moi, je suis
l'avocat. Moi, au
contraire.
Pour moi, c'est un bon fils qui se casse la figure. C'est-à-dire vraiment, il était autonome. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Regardez quelqu'un qui apprend à marcher.
Ça se passe, tu le tiens, il tombe pas. Dès que tu le lâches, il s'en disqueste sa figure. C'est là qu'il apprend.
C'est que quelque part, il n'était pas prêt encore le bénéficier à la rentrée à ce moment-là. Il a fallu qu'il reste 40 ans dans les airs à expliquer pour pouvoir rentrer.
C'est déguisé dans cette histoire extra. C'est des esclaves dans la tête. Quand est-ce qu'ils ont enterré Yosef? Parce que là, ils sont juste après Matan Torah, là.
Non, là, ils sont un an après. Là.
Ils sont pas trois jours après.
Non, un an après, là.
Ils ont lancé le tournage.
Ils sont restés un an au Arsinaï. Oui. C'est ça. Et après un an, donc, ils sont partis derrière Shoshet Yamin et ils sont arrivés devant.
Parce que la première destination quand on est parti des Égyptes, c'était il fallait aller au Mont Sinaï. On est parti au Mont Sinaï. On est arrivé au Mont Sinaï. Ensuite, on a fait encore un tour, on est resté un an au Mont Sinaï.
D'accord.
Après, il y a eu le temps de Pessah Sheni. La parasha Sheni, ben
d'accord. Oui, tout à fait. Et là, vous dites que Pessah Sheni, c'est là où on l'apprend pour la soirée de Yosef.
Oui, ils étaient occupés.
C'est des gens qui étaient
partis pour l'enterrer.
Oui, partis pour l'enterrer. Ils n'ont pas pu faire
plus tard. Exactement.
Donc, la première année, quoi. Donc,
non.
Il va me rester un an.
Non.
C'était le juste premier Pessah ou là?
Parce que tant que Akadosh Baruch Hu ne donne pas l'ordre de partir, il ne faut pas partir. Donc, je suis resté au Mont Sinaï. Je vais rester là-bas.
D'accord. Mais s'ils ont été mis pour le Korban Pessah, c'est le Korban Pessah de.
Un an après.
Donc, Yosef est resté un an.
Un an, oui.
Voilà. Oui, d'accord. Mais un. D'accord.
Oui, parce qu'ils ont bloqué au Mont Sinaï.
Et après,
ils avaient. C'est eux les premiers qui sont.
Et après, ils ont eu le matin.
C'est pas vraiment resté ça, c'est à l'emploi, ils vont.
Et après, ils ont marché, donc, trois jours, et...
Donc, les premiers qui sont rentrés, c'est eux.
D'accord. Bazak. Salut.